en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, merci à votre Académie de m'avoir convié aujourd'hui. Je me propose de montrer dans cette communication qu'une réforme de la fiscalité du capital, qui serait fondée sur quelques principes simples et naturellement cohérents, permettrait de mieux orienter l'épargne des Français vers l'investissement productif et de maintenir cette épargne sur les territoires français. Alors, la réforme esquissée dans l'ouvrage que vous avez mentionné consisterait, j'y reviendrai bien sûr, à remplacer trois impôts par un prélèvement unique assis sur le revenu du capital. Elle simplifierait considérablement notre législation. Elle pourrait être conduite sans perte de recettes fiscales. Elle serait favorable à l'investissement sur notre territoire et à l'emploi, et elle serait gagnante en termes d'équité fiscale. Avant d'entrer dans la démonstration, je précise brièvement trois points de méthode. Premièrement, ce qu'est la fiscalité du capital. Deuxièmement, l'ordre de grandeur de son poids dans l'économie. Et troisièmement, quelques principes d'analyse économique de la fiscalité du capital. Alors, sur la fiscalité du capital d'abord. C'est un concept économique. Elle n'existe pas dans le Code général des impôts, qui ne parle jamais de fiscalité du capital. C'est un ensemble de règles fiscales qui sont en fait disséminées un peu partout dans le Code des impôts, mais qui ont en commun d'avoir un impact sur l'accumulation du capital productif. Ces règles concernent les revenus du capital, la détention ou la transmission du capital. Selon leur définition exacte, et le diable est souvent dans les détails, elles peuvent être plus ou moins défavorables à la productivité et à la croissance économique. Et dans l'ensemble, les économistes considèrent que la taxation du capital est la méthode de taxation la plus nocive pour la croissance. La fiscalité du capital actuelle en France est le résultat d'une longue sédimentation d'impôts. Des impôts fonciers, les plus anciens, par la Révolution française, et même peut-être avant, des impôts sur les revenus du capital, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qui sont en fait deux prélèvements successifs sur les résultats des entreprises. Un nouvel impôt créé en 1982, l'impôt sur la fortune, assis cette fois sur la détention du patrimoine. Des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, apparus à la fin des années 80 et qui n'ont cessé d'augmenter depuis. Enfin, des droits lié à la transmission du capital, transmission à titre gratuit, droit de succession, droit de donation, et transmission à titre onéreux, les droits d'enregistrement. Elle s'est développée, la fiscalité du capital, en fonction des appétits financiers des pouvoirs publics, l'État et collectivités locales, qu'il ne faut pas oublier, et selon les circonstances du moment, au travers de changements incessants, sans vision d'ensemble, et, à vrai dire, sans grand souci de ses effets économiques. Sur le poids de la fiscalité du capital dans l'économie, deux chiffres simplement. Entre la valeur créée par l'activité productive, c'est-à-dire le produit intérieur brut, et le rendement final du capital pour l'épargnant, les prélèvements au titre de la fiscalité du capital représentent en France environ 10% du PIB. C'est le chiffre le plus élevé des pays comparables. Si on se place du point de vue des seuls ménages, un indicateur intéressant est le ratio obtenu en portant au numérateur le total des prélèvements imposés aux ménages au titre de la fiscalité du capital à toutes les étapes de la vie, et au dénominateur le total des revenus du capital encaissés au cours d'une vie. Ce ratio était de 38% en 1995. Il est actuellement de 68%. Le poids de la fiscalité du capital n'a en fait jamais cessé d'augmenter. Au-delà du poids, je veux insister sur un autre aspect qui est, à mon sens, crucial, qui est le système d'incitation ou d'inhibition économique qui résulte des règles fiscales. Car au-delà du poids moyen, la façon de prélever influence fortement les décisions des acteurs. Elle influence donc aussi, à l'échelle de l'économie globale, le niveau et la croissance du revenu national, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Alors, sur les effets de la fiscalité du capital, et c'est le troisième préliminaire, si j'ose dire, les économistes qui raisonnent souvent en termes d'optimisation accordent généralement une grande importance aux taux marginaux. Par exemple, la firme en concurrence parfaite fixe sa production d'équilibre au niveau tel que le coût marginal soit égal au prix du marché. C'est les textbooks, tous les textbooks sont d'accord là-dessus. Le même concept s'applique aussi aux contribuables. Une question pertinente pour l'épargnant est la suivante. Compte tenu de ma situation personnelle, si je prends la décision d'augmenter mon épargne pour l'investir, quel sera pour moi le gain supplémentaire? Quelle sera la charge supplémentaire fiscale? Et que me restera-t-il en net au bout du compte? C'est le taux marginal d'imposition. Mais comment mesurer le taux marginal d'imposition dans notre fiscalité du capital qui combine des impôts calculés sur les revenus du capital et des impôts calculés sur le capital lui-même? La réponse ne paraît pas évidente et pourtant elle est très simple. Elle découle du principe économique qui est que tous les impôts récurrents qui doivent être payés chaque année constituent des charges courantes et viennent donc diminuer le revenu courant disponible. Ceci est vrai quelle que soit la base et le mode de calcul de l'impôt considéré. Une taxation régulière de la détention du capital est en fait équivalente à une taxation du revenu du capital. Et la formule d'équivalence est au demeurant très simple. Le taux d'imposition équivalent à un impôt assis sur le capital, en poids sur le revenu, est égal au taux appliqué à la valeur du capital, divisé par le rendement du capital. Je prends quelques exemples pour illustrer ce propos qui peut être un peu abstrait. L'exemple de l'impôt français sur le patrimoine, dont le barème est, comme vous le savez, progressif, de 0,5% de la valeur du patrimoine à 1,5% selon le niveau de ce patrimoine. Prenons par exemple le taux intermédiaire du barème, celui qui est au milieu du barème. Il est de 1%. Si le rendement du capital est de 4%, l'impôt représente une charge annuelle égale à 25% des revenus du patrimoine. Si le rendement est de 2%, il représente 50% des revenus du patrimoine. Si le rendement est de 1%, il représente 100% du revenu du patrimoine. À l'instant où nous parlons, ce taux est de 0,84%. Le seul impôt sur le patrimoine représente aujourd'hui 119% du revenu de ce patrimoine. Avec le taux supérieur du barème, il représenterait 179% du revenu, sans compter bien sûr l'impôt sur le revenu lui-même. Ce constat purement arithmétique explique, à mon sens, plusieurs défauts évidents de notre fiscalité du capital. Premier défaut, le poids effectif de l'impôt sur le patrimoine varie sans cesse au gré du rendement du capital. Même si le barème légal est stable, on arrive à ce paradoxe absurde qui est plus le rendement du capital diminue, ce qu'il a fait depuis 30 ans, plus la charge fiscale rapportée aux revenus du capital augmente. Deuxième défaut, le système fiscal français conduit aujourd'hui à une taxation marginale de l'effort d'épargne qui n'a plus aucun sens économique, comme je l'ai montré. Si on additionne l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sur le revenu et l'impôt sur le supplément de patrimoine, les trois impôts que j'ai évoqués, le taux d'imposition marginal atteint au total en fait 100% du revenu supplémentaire généré par l'effort d'épargne dès les tranches médianes des barèmes, et pour les tranches supérieures, il dépasse 200% du revenu du capital. Troisième défaut, qui est peut-être encore pire, les taux de prélèvement de plus en plus élevés aboutissent à des situations extrêmes et peu supportables, de sorte que les gouvernements successifs ont été contraints de multiplier des régimes dérogatoires et de créer des niches fiscales avec une multitude d'effets de seuil et de conditions distorsives aux conséquences économiques négatives. Ces préliminaires étant posés, je voudrais vous exposer comment, en corrigeant ces défauts, en inscrivant la fiscalité du capital dans une vision cohérente, il est possible de répondre aux deux questions posées par votre académie, et plus généralement, comment il pourrait en découler des gains macroéconomiques très significatifs. Je concentrerai l'exposé sur quatre aspects. Le premier, c'est l'orientation de l'épargne vers la production. Le deuxième, c'est le maintien de l'épargne sur le territoire français. Le troisième, le lien entre la fiscalité du capital de manière plus générale et la croissance économique. Enfin, le quatrième, la question de l'équité. Première question, comment orienter l'épargne vers les investissements vers les entreprises et les investissements productifs. Sur l'orientation de l'épargne, deux brefs constats. Le premier, c'est que l'orientation de l'épargne des ménages est un enjeu économique essentiel. Les ménages sont en effet, par leur épargne, les premiers financeurs de l'économie. Actuellement, les administrations absorbent environ 2/3 de l'épargne des ménages, les entreprises le tiers restant. Est-ce satisfaisant? Le deuxième constat ressort de l'examen de l'évolution des actifs financiers des ménages. Les liquidités et l'assurance-vie occupent un poids nettement croissant dans le portefeuille financier global des ménages français, actuellement à peu près les 3/4 du total. Or, ces placements ont deux caractéristiques. D'une part, ils bénéficient de régimes fiscaux dérogatoires et avantageux, plus ou moins selon les placements. D'autre part, ils sont relativement moins orientés, je dis relativement seulement, moins orientés vers l'investissement productif. La fiscalité du capital introduit donc aujourd'hui des biais dans les choix de portefeuille des ménages, biais qui sont plutôt défavorables à l'investissement productif. La littérature économique délivre pourtant un message très clair sur la question de l'orientation de l'épargne. La recommandation de neutralité est consensuelle. C'était l'une, par exemple, des conclusions de la Mirrlees Review, du nom de son animateur James Mirrlees, prix Nobel d'économie 1996. Cette recherche, qui a été conduite à la fin des années 2000 par un ensemble d'économistes internationaux, a sans doute constitué, à mes yeux, l'effort de rationalité fiscale le plus achevé. C'est aussi le point de vue de Maurice Allais dans « L'impôt sur le capital et la réforme monétaire ». Je le cite, « L'impôt ne doit pas s'opposer à une meilleure gestion de l'économie et il doit être favorable à la réalisation d'une économie efficace. Autrement dit, l'impôt ne doit pas modifier les choix les plus économiques. Sous réserve de quelques exceptions très limitées, la fiscalité devrait être neutre, c'est-à-dire qu'elle devrait distordre le moins possible les choix de placement des épargnants. Chaque placement a des caractéristiques propres en termes de rendement et de risque. Ces caractéristiques conduisent l'investisseur à faire les choix qu'il considère comme les plus adaptés à sa situation présente et future. Fausser ces choix par la fiscalité empêche en réalité une allocation efficace du capital. Or, la fiscalité du capital française est très éloignée du principe de neutralité. On peut même dire, en simplifiant, que plus le placement est liquide et garanti, moins il est taxé. En revanche, plus l'investissement contribue à la production et est de ce fait plus risqué, plus il est taxé. Pour corriger les biais structurels de la fiscalité, on s'évertue ensuite à multiplier des régimes spécifiques ou des incitations budgétaires coûteuses en espérant ramener une partie de l'épargne vers l'investissement. Une fiscalité plus neutre permettrait une meilleure allocation de l'épargne, elle serait aussi plus simple et de ce fait plus stable. C'est la réponse à la première question, comment orienter l'épargne des Français vers les entreprises et l'investissement? J'en viens à la deuxième question, comment retenir en France l'épargne des Français? Une seconde caractéristique de la fiscalité du capital française est qu'elle semble ignorer l'existence d'autres pays et par conséquent les autres fiscalités. En termes de poids global de la fiscalité du capital française, la France est au-dessus de tous les autres pays, je l'ai dit au début. Par exemple, par rapport à l'Allemagne, en ramenant bien sûr la taille de l'Allemagne à la taille de la France pour que les comparaisons soient pertinentes, elle représente en France une surcharge fiscale d'environ 80 milliards d'euros, 4 points de PIB, répartis à peu près pour moitié entre les coûts de production des entreprises et l'imposition des revenus des ménages. Au-delà du poids, les anomalies françaises concernent les règles fiscales qui conditionnent, comme je l'ai indiqué, les comportements. Les autres pays européens ont tous des impôts sur les revenus financiers, bien sûr, mais premièrement, ils n'ont en règle générale pas d'impôt analogue sur le patrimoine, et deuxièmement, ils ont tous adopté une imposition des revenus du capital proportionnelle aux revenus du capital, avec un taux moyen, et marginal d'ailleurs, puisque le taux est unique, de l'ordre de 25 à 30%. Prenons à nouveau l'exemple de l'Allemagne. Le taux marginal d'imposition total d'un effort d'épargne résulte de l'impôt sur le revenu, il n'y a que celui-là, et il est de 26% du revenu procuré par cette épargne. En France, en additionnant les différentes charges fiscales, les trois impôts que j'ai évoqués, déclenchés par l'épargne, le taux marginal pour le même effort d'épargne peut aller jusqu'à 200%, 26%, 200%. Cette situation est absolument, à mes yeux, incompatible dans la durée avec le choix de l'Europe, qui implique la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, et naturellement pour la zone euro, la même monnaie. On sait qu'il en résulte une hémorragie lente de capital au départ de la France vers d'autres territoires. La réponse à la question « Comment retenir en France l'épargne des Français ?» est en fait assez simple. Elle consiste à aligner notre fiscalité du capital sur celle de tous les autres pays de la zone euro. Mais si vous le permettez, je souhaite maintenant aller au-delà et évoquer une question qui englobe les questions précédentes, qui est la question plus générale du lien entre la fiscalité du capital et la croissance économique. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots pourquoi la fiscalité du capital telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France est un frein à la croissance économique et donc à l'emploi. Réformer la fiscalité du capital serait donc de nature non seulement à rehausser le niveau d'équilibre, donc le pouvoir d'achat moyen par Français, mais aussi à augmenter le taux de croissance potentiel de l'économie, ce qui, cumulé sur plusieurs années, a des effets encore bien plus favorables. J'insiste bien sur ces deux gains, qui ne sont pas les mêmes. L'un qui est de relever le niveau d'équilibre de l'économie, et le deuxième, c'est d'augmenter la croissance de cette économie. Sans développer ici des modèles sophistiqués, qui sont accessibles sur le site de Rexecode et qui ont été préparés par Jean-François Ouvrard, qu'on a cité tout à l'heure, je me limite à deux observations. La première, la fiscalité du capital modifie l'équilibre économique dans un sens restrictif, c'est la question du niveau. Comme sur tous les marchés où se rencontrent une offre et une demande, l'introduction de taxes conduit à un écart entre le prix hors taxe et le prix taxe comprise. Dans le cas qui nous occupe, le marché de l'épargne, le prix hors taxe, c'est le rendement reçu par l'épargnant. Le prix taxe comprise, c'est le coût du capital pour l'entreprise. Il résulte donc de la fiscalité du capital, surtout si elle est forte, un écart entre les deux et un niveau d'équilibre offre-demande plus bas, dans lequel l'épargne est un peu moins rentable pour l'épargnant et l'investissement un peu plus coûteux pour l'entreprise, mais surtout le niveau d'activité plus bas que si la fiscalité du capital était non présente. Deuxième observation, une fiscalité du capital mal conçue est un obstacle à la croissance. Le taux de croissance d'une économie n'est pas donné, a priori. Il dépend, bien sûr, de la démographie, de l'investissement et du niveau d'innovation, mais aussi des choix de régulation et de fiscalité. La taxation du capital joue alors un rôle très spécifique en raison du caractère cumulatif du capital. Réduire l'incitation à augmenter le capital a des effets défavorables qui se cumulent d'année en année et jouent négativement sur le taux de croissance économique. De ce lien entre la fiscalité du capital et l'accumulation du capital, il découle assez naturellement que la progressivité de la taxation du capital s'avère défavorable aussi du point de vue de la croissance. Indépendamment de tout aspect normatif sur lesquels je reviendrai, du strict point de vue économique, la taxation de plus en plus lourde sur les acteurs qui contribuent le plus à l'augmentation du stock de capital sur le territoire ralentit l'accumulation du capital et la croissance de l'ensemble de l'économie. Au total, la conclusion ne fait aucun doute. Si on se place du point de vue de l'efficacité économique, une fiscalité du capital neutre, modérée et peu progressive est plus favorable au niveau de vie générale et à la croissance économique. Alors on pourrait s'arrêter à ces conclusions. Cependant, dès lors que l'on propose de réformer la fiscalité, on doit s'interroger sur les raisons qui ont toujours poussé dans le passé les responsables politiques, quels qu'ils soient, à augmenter systématiquement en France le poids de la fiscalité du capital et à la rendre de plus en plus complexe et illisible. Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le débat sur la justice sociale et sur l'équité fiscale. C'est en effet toujours en invoquant la justice sociale que la fiscalité du capital a été alourdie et rendue plus progressive. Il suffit de lire pour cela tous les exposés des motifs des lois de finances successives. Il n'est pas douteux, bien sûr, à mes yeux, qu'il est juste d'imposer plus ceux qui ont plus. Mais le principe général étant admis, il faut aussi s'interroger sur l'efficacité réelle des moyens mis en œuvre. Je suggère ici brièvement, car le sujet est complexe, deux observations. La première est que, contrairement aux apparences immédiates, dont je suis bien sûr bien conscient, la fiscalité du capital ne peut jouer en fait qu'un rôle relativement second dans la réalisation de l'objectif de redistribution. La deuxième observation est que par rapport à la situation actuelle, une approche pragmatique permettrait au moins de supprimer certaines situations clairement contraires à l'équité fiscale. Alors la question de la justice sociale comporte plusieurs dimensions et il faut s'interroger sur le rôle de la fiscalité du capital en fonction ou selon l'approche privilégiée. Commençons par la question de l'égalité. Si on cherche d'abord à réduire les inégalités, une question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante. Jusqu'où faut-il éliminer les différences de situation économique entre les personnes ? Il est difficile de prétendre que la justice sociale consisterait à redistribuer toujours plus par l'impôt jusqu'à obtenir l'égalisation stricte des revenus et des patrimoines de tout le monde, car certaines différences peuvent être justifiables. Un objectif consensuel est de viser l'égalité des chances. John Romer, par exemple, propose ainsi de distinguer parmi les déterminants des situations économiques ceux qui relèvent des circonstances et qui échappent à l'intéressé, par exemple le milieu d'origine, la naissance, et ceux qui résultent de son effort personnel et relèvent donc de sa responsabilité. Il s'agirait donc de compenser les effets des circonstances, mais de ne pas neutraliser le rôle de l'effort. C'est l'idée qui légitime la progressivité des droits de succession. Mais la même idée justifierait alors des droits de donation sensiblement inférieurs aux droits de succession, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou plus le cas. Du point de vue de la fiscalité du capital, je mentionne aussi une idée originale proposée par Anthony Atkinson, vous savez l'économiste qui a passé une grande partie de sa vie à travailler sur l'inégalité, idée que l'on pourrait appeler le patrimoine universel. Ça c'est de moi, c'est pas de lui. Chaque jeune recevrait de l'État à 18 ans, un même capital. Ensuite, la fiscalité du capital devrait s'abstenir de toute mesure de redistribution, car les différences de patrimoine résulteraient alors de son effort personnel. L'idée est intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure elle serait fortement soutenue par l'opinion publique. L'exemple du revenu universel nous a instruits sur ce plan. Une autre conception de la justice sociale est celle proposée par John Rawls, comme vous le savez. Selon cette conception, la priorité absolue d'une politique de justice sociale serait d'assurer à tous l'accès aux biens les plus indispensables à la vie, qu'il appelle les biens premiers, disons la nourriture, le logement et les soins pour illustrer le propos. Une politique fiscale juste devrait donc moins viser l'ensemble de la répartition que la situation des plus démunis. Et alors, si la question est abordée ainsi, on ne voit pas de lien particulier avec la fiscalité du capital. Bien sûr, toute augmentation des recettes publiques peut contribuer à la redistribution, y compris une augmentation de la fiscalité du capital, mais la fiscalité du capital n'a pas de ce point de vue de statut particulier. Un exemple extrême illustratif est celui de l'impôt sur la fortune. Cet impôt représente en masse 0,25% du PIB. Or, la redistribution met en jeu en France 57% du PIB. Ce que montrent plusieurs travaux, c'est que la persistance de la pauvreté, qui existe malheureusement en France et persiste, renvoie à des facteurs qui relèvent très largement de choix de dépenses publiques, comme l'échec scolaire, les difficultés d'insertion professionnelle, la concentration de difficultés dans certains quartiers, la complexité de l'accès aux aides, et non pas du tout à la structure de la fiscalité. L'observation factuelle confirme d'ailleurs ces analyses. Selon les calculs de l'INSEE, présentés par l'Observatoire des inégalités récemment, les indicateurs d'inégalité comme ceux de pauvreté ont nettement reculé en France depuis le début des années 70, mais la baisse des indices a eu lieu avant 1980. Elle est antérieure aux deux périodes de forte hausse de la fiscalité du capital, qui se situe à la fin des années 90 et dans la période récente. On ne voit donc pas de corrélation avec les variations de la fiscalité du capital. Si l'on se place enfin du point de vue de l'équité fiscale, qui est un aspect essentiel de la justice fiscale, on distingue traditionnellement l'équité fiscale verticale, qui est violée lorsque le contribuable le mieux loti est fiscalement avantagé par rapport aux contribuables moins bien lotis. La règle d'équité horizontale, elle, est violée lorsque deux personnes qui sont dans des situations comparables sont traitées par la fiscalité de façon différente. Or, ces deux situations, qui sont choquantes du point de vue de l'équité fiscale, sont présentes dans notre fiscalité du capital, qui permet, par exemple, au très gros patrimoine d'échapper à l'impôt. Elle ne résulte pas d'une erreur d'inattention du législateur. Elles sont une conséquence incontournable du logiciel de notre fiscalité du capital, de ses excès, de la multiplicité et de l'incohérence des régimes dérogatoires dont la combinaison arrive au résultat que j'ai indiqué. Enfin, n'oublions jamais une dernière observation cruciale, c'est qu'on ne peut pas dissocier complètement les conséquences économiques et la justice sociale. Dans la mesure où la fiscalité du capital contribue par ses défauts à la faiblesse de la croissance et au niveau élevé du chômage, c'est une cause, pas la seule, mais c'est aussi une cause d'inégalité devant l'emploi et donc une grave injustice sociale. En réalité, dans l'espoir affiché et a priori louable de réduire les inégalités, notre fiscalité du capital s'est en fait enfoncée dans des excès, dans une complexité croissante et de ce fait une instabilité permanente. Il n'y a jamais assez de niches. Une réforme d'ensemble est possible, et ce sera ma conclusion et ma proposition, et elle serait gagnante, non seulement du point de vue de l'efficacité économique, mais aussi, dans la mesure où elle supprimerait certaines anomalies actuelles, du point de vue de l'équité sociale. Alors, quelle réforme ? L'objectif est de remplacer l'imbroglio des textes actuels par un droit commun de la fiscalité du capital d'application large et fondé sur quelques principes simples que j'énonce. La fiscalité du capital doit pouvoir s'appliquer à tous, avec le moins possible de dérogations ou d'exceptions, c'est ce qu'on appelle le droit commun. Elle doit être neutre afin de respecter les choix d'épargne et d'investissement de chacun. Elle doit être simple et transparente afin d'être comprise par tous. Elle doit être en harmonie avec celle des pays les plus proches, notamment européens. Enfin, elle doit supprimer les situations inéquitables les plus évidentes. Il ne s'agit pas, à mes yeux, de privilégier l'efficacité au détriment de l'équité, mais de progresser dans les différentes directions à la fois. Alors, la proposition centrale est de remplacer trois prélèvements actuels, l'impôt sur le revenu concernant le capital, les prélèvements sociaux sur le capital et l'impôt sur le patrimoine, par un seul et unique prélèvement qui serait proportionnel aux revenus du capital. Compte tenu de notre situation budgétaire et de notre dette publique, le taux devrait être calculé au moins dans un premier temps de façon telle que le rendement global de la fiscalité soit inchangé. Un taux de 30% serait de ce point de vue suffisant, donc 30% des revenus du capital. Je note au passage que 30%, ce serait encore le taux le plus élevé des pays européens. Thomas Piketty ne m'en voudra pas si je cite la conclusion de son ouvrage de 1999, « L'économie des inégalités », et là je le cite, « Il ne suffit pas de vouloir redistribuer, encore faut-il employer des outils adéquats. Les expériences passées suggère qu'une amélioration sensible pourrait être obtenue à l'aide d'un impôt calculé de façon aussi simple que possible. Cet outil, la flat tax, entre parenthèses l'impôt universel à taux unique, n'est sans doute pas adapté à la redistribution fiscale des revenus du travail, qui exige et qui permet une plus grande liberté, mais pourrait bien convenir à la réalité contemporaine des revenus du capital. Si les taux d'imposition redeviennent plus normaux et si les situations extrêmes sont évitées, les niches fiscales devenues inutiles peuvent être supprimées. Elles pourraient être éventuellement remplacées par une franchise d'imposition pour ce qu'on peut appeler la petite épargne, gros l'équivalent de nos livrets de caisse d'épargne, c'est-à-dire une exonération totale des premiers revenus du capital, quelle que soit l'affectation de l'épargne. Cette affectation resterait choisie librement par l'épargnant afin de respecter le principe de neutralité. Le système ainsi conçu serait infiniment plus simple que le dispositif actuel. Il permettrait de supprimer des centaines, voire des milliers de pages d'instructions fiscales, qu'on oublie souvent. Il y a la loi, mais il y a l'étage des instructions qui grossit la loi de manière considérable. La question des boucliers fiscaux et plafonnements ne se poserait plus. Puisque la base étant le revenu, il y aurait toujours le revenu pour payer. Il serait plus neutre pour l'orientation de l'épargne qui serait allouée librement, y compris vers l'investissement risqué, mieux rémunéré, sans pénalisation fiscale excessive. La neutralité serait ainsi totalement assurée entre les placements, mais aussi dans le temps, ce qui est important du point de vue de l'imposition des plus-values. Le système serait plus juste qu'aujourd'hui, car les personnes dans des situations égales supporteraient la même charge fiscale et les gros patrimoines n'échapperaient pas à l'impôt. Enfin, les taux marginaux d'imposition étant ramenés à des niveaux plus incitatifs et se rapprochant de ceux des autres pays européens, la fiscalité du capital serait plus stimulante pour l'économie et on pourrait attendre de la réforme des gains significatifs en termes d'investissement, de croissance et d'emploi. Voilà pourquoi je soutiens une telle réforme et je me réjouis que pour la première fois, le débat politique semble retenir quelques-unes de ces idées. Mais là encore, le prochain chapitre devrait être écrit plus tard. Merci de votre attention.